présenté par Thomas Cluzel. Il est 12h31 même, pardon pour ce retard. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous irons en Allemagne où les alliés au gouvernement d'Angela Merkel, la CSU et le SPD doivent tirer ce matin les premières leçons de leur échec hier aux élections régionales en Bavière, où quand 7 mois seulement après avoir été formés dans la douleur, la grande coalition de la chancelière semble désormais au pied du mur. Nous serons avec notre correspondant Ludovic Piétenu dès le début de ce journal.
Et puis ces élections d'hier auront notamment été marquées par une forte poussée des Verts, Thomas.
Une dynamique qui s'est également vérifiée lors de 2 autres scrutins européens au Luxembourg et en Belgique. Du coup, avec Élise Delève, nous tâcherons de comprendre si cet engouement écologique doit être perçu comme transfrontalier ou strictement lié à des enjeux de politique nationale.
Le niveau atteint ce matin par la crue à Trèbes dans la vallée de l'Aude est sans précédent depuis 1891.
Et cette nuit, les intempéries ont fait au moins 7 morts et 5 blessés graves selon un nouveau bilan. Le Premier ministre doit se rendre sur place cet après-midi. Du coup, le déplacement impromptu d'Édouard Philippe dans l'Aude risque de retarder encore un peu l'annonce du remaniement qui paraissait pourtant imminente. Nous serons en direct avec Stéphane Rosès, politologue et président de Cap Conseil Analyse et Perspective.
Les discussions, enfin, de votre édition autour du Brexit, elles sont toujours dans l'impasse.
Oui, à 3 jours d'un sommet à Bruxelles consacré exclusivement aux modalités du divorce entre Londres et l'Union Européenne. Difficile d'entrevoir l'espoir d'une percée décisive dans ces tractations, nous dira notre correspondante Aude Soufi. Enfin, en Syrie, l'incertitude plane s'agissant de la province d'Idlib, que les djihadistes étaient censés avoir évacué ce matin en vertu d'un accord négocié entre la Russie et la Turquie. Or, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, aucun retrait visible n'aurait été constaté. Explication à suivre d'Aurélien Colli. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Un film sans images, celui du procès Mandela, Afrique du Sud. Que reste-t-il de leur combat, du combat de Mandela et de ses 8 co-accusés contre l'apartheid? On en parlera dans une vingtaine de minutes avec notre invité, le réalisateur Nicolas Champoux, et le traducteur et écrivain biographe de Nelson Mandela, Jean Guilloineau, qui seront donc avec nous.
Merci, à tout à l'heure. Débâcle, défaite, historique, désastre. Le séisme politique qui a secoué la Bavière hier serait d'une telle intensité que l'onde de choc pourrait désormais faire trembler jusqu'à la capitale et provoquer un tsunami à même de balayer le gouvernement fédéral. À lire les commentaires ce matin dans la presse outre-Rhin, les résultats des élections régionales constitueraient donc rien de moins qu'un véritable tremblement de terre. Et pourtant, la CSU reste bien encore ce matin le premier parti de la très riche région de Bavière. Son plus grand concurrent, le parti d'extrême droite AFD, n'a lui pas réalisé la percée espérée. Quant au triomphe des Verts, il ne peut objectivement que susciter de l'espoir. Dès lors, comment justifier ce catastrophisme alarmant qui s'affiche absolument partout ce matin à la une de la presse? La première explication tient au fait qu'avec 35,3% des voix, le Parti chrétien social perd la majorité absolue, ce qui signifie qu'elle ne peut plus prétendre à gouverner seule le Land, comme elle l'a fait pratiquement sans interruption depuis les années 50, et surtout qu'elle va devoir bâtir une alliance inconfortable avec une ou plusieurs autres formations. Et puis, si tous les commentateurs s'inquiètent d'un tremblement de terre, c'est parce que les résultats d'hier n'ont rien pour rassurer la chancelière. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Les deux partenaires de coalition d'Angela Merkel, c'est-à-dire la CSU et le SPD, ont subi hier une déroute.
Oui, Angela Merkel peut faire les comptes et sortir la calculette. Ses alliés conservateurs de la CSU et les sociaux-démocrates du SPD perdent ensemble hier soir en Bavière 21 points en 5 ans. Au niveau national, les sondages de ce début d'automne n'ont jamais été aussi mauvais pour le gouvernement. Additionnés, CDU, CSU et SPD ne pèsent que 43-44%. La grosse coalition n'est plus majoritaire. Hier soir, les seuls sociaux-démocrates n'ont même pas atteint la barre des 10%. Cela devrait relancer le débat sur leur légitimité au sein de cette grande coalition à Berlin. La grande coalition est un tombeau, titre ce matin le quotidien, le tabloïd Bild. Mais du côté de ses dirigeants, tout se passe ce matin comme si de rien n'était. Les réunions, certes, s'enchaînent de chaque côté, dans chaque parti, dans chaque faction. Mais les dirigeants ne veulent pas précipiter la crise avant la formation du nouveau gouvernement de Bavière. Mais en coulisses, le patron de la CSU, Horst Seehofer, ministre fédéral de l'Intérieur ici à Berlin, est devenu l'homme à abattre, le responsable de la débâcle. Enfin, cette grande coalition résistera-t-elle au prochain test électoral dans 15 jours, dans le land de Hesse, dans la région de Francfort, quand cette fois ce ne sera plus l'allié de CSU bavarois, mais directement la CDU de la chancelière Angela Merkel qui devra sauver sa peau, alors que tous les indicateurs prédisent déjà une débâcle.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Le délitement des partis dits traditionnels d'un côté, la difficulté en retour de constituer des alliances parfois contre nature de l'autre. L'exemple de l'Allemagne ne fait en somme que souligner cette tendance qui traverse désormais toute l'Europe. Hier, en Suède, un mois après des élections législatives qui n'avaient pas permis de désigner de vainqueur susceptible de construire une coalition stable, le chef de file des modérés a échoué à former un gouvernement. Confronté au refus des autres membres de l'Alliance de transiger avec l'extrême droite, il a donc préféré jeter l'éponge et passer ainsi le relais au chef de file des sociaux-démocrates. Au Luxembourg, là-bas aussi, la situation semble indécise. Ce matin, hier, le parti social-chrétien est arrivé en tête des élections législatives, sans toutefois parvenir à déloger la coalition tripartite du Premier ministre aux affaires depuis 5 ans. Un scrutin marqué par ailleurs par le très bon score des Verts qui ressortent comme les grands gagnants en réalité de ces élections. Et puis en Belgique, cette fois-ci, quelques 8 millions d'électeurs étaient eux aussi appelés aux urnes hier pour renouveler leurs conseils communaux, un scrutin local à valeur de test pour le gouvernement de centre-droit. 7 mois maintenant des législatives, quand la Flandre reste encore très ancrée à droite. En revanche, en Wallonie, comme à Bruxelles, la progression de la gauche radicale, mais aussi et surtout des écologistes, a permis de prendre acte du recul, là encore, des grands partis traditionnels. En d'autres termes, et à la faveur de ces 3 scrutins organisés hier en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique, eh bien, il en ressort une véritable dynamique écologique. Alors, comment l'interpréter, Élise Delève, bonjour.
Bonjour.
Cet engouement pour les Verts se nourrit-il d'un contexte particulier, strictement national, ou bien va-t-il au-delà des frontières de chacun de ces 3 pays?
Eh bien, on peut l'analyser à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, Thomas. Les Européens sont de plus en plus préoccupés par les questions environnementales. La prise de conscience est générale et les rapports environnementaux, notamment ceux du GIEC, sont très écoutés par les citoyens. Et par exemple, lorsqu'un grand projet d'infrastructure voit le jour, n'importe où en Europe, beaucoup de voix s'élèvent pour que l'environnement soit pris en compte. Concernant le contexte national de ces élections, on remarque que les Verts apparaissent comme un refuge. Un refuge pour des électeurs déboussolés qui votaient pour les grands partis traditionnels de droite et de gauche. En Allemagne, selon l'Institut Forsa, un quart des nouveaux sympathisants des Verts dans le pays votaient jusqu'à présent pour le parti d'Angela Merkel, la CDU. Les Verts sont-ils également un rempart contre l'extrême droite et les populismes? Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Schuman.
Je pense que c'est un vote un peu de repli. De là à dire qu'ils sont un rempart, je ne le crois pas non plus. Ils ne sont pas suffisamment structurés ou suffisamment légitimes en termes de gouvernabilité, si vous me pardonnez ce mot. Mais ils sont en tout cas à côté des partis populistes ou extrémistes ou nationalistes. Ils sont un rempart contre le nationalisme, ça c'est sûr. Et vous savez, le terme de populisme me paraît bien dépassé. Je crois qu'il faut parler surtout d'un regain du nationalisme dans les grandes démocraties occidentales et en Europe en particulier. Donc de ce point de vue-là, oui, ils sont un parti qui permet de ne pas sombrer dans les replis nationaux qu'on voit un peu partout.
Si les Verts veulent confirmer cette vague aux européennes du mois de mai prochain, donc, ils devront se structurer pour prouver qu'ils peuvent gouverner.
Merci Élise Delève. Alors, la multiplication des phénomènes climatiques exceptionnels de ces dernières semaines a-t-elle pu influencer en partie le vote des électeurs dans chacun de ces 3 scrutins? Quoi qu'il en soit, la tempête Leslie qui a frappé hier le Portugal et l'Espagne a offert non seulement de nouvelles images de désolation, mais serait également à l'origine des pluies orageuses meurtrières qui, selon un bilan toujours provisoire, ont fait au moins 7 morts et 5 blessés graves cette nuit dans le département de l'Aude. En plus des 350 sapeurs-pompiers, 160 gendarmes procèdent actuellement en reconnaissance des zones sinistrées ainsi qu'à la mise en sécurité et au sauvetage des personnes. L'ensemble des écoles, des collèges, des lycées du département sont fermés. Le trafic SNCF est interrompu et certains axes routiers toujours bloqués. Le Premier ministre Édouard Philippe a lui prévu de se rendre sur place cet après-midi. Les précisions de Stéphane Iglesias.
À Villegayenc, le pont principal du village a été emporté par la montée des eaux et ce n'est pas le seul pont d'ailleurs qui est par terre dans ce département de l'Aude. 60 communes sont touchées, l'essentiel se situant à l'est de Carcassonne. Ce matin, les habitants ont commencé à nettoyer à Villegayenc. Estelle a vraiment eu peur cette nuit.
Ouais, les voitures, toutes les voitures qui étaient là ont été emportées et tout, donc je pense que c'est en tout. Hein. Tout ce qui est sorti des maisons et tout ça qui ont été emportés avec l'eau. Arrête, nénette. C'est mon conjoint qui a vu, parce qu'on a eu de l'eau qui commençait à sortir par les spots électriques. Et du coup, ben.
Par les spots électriques ?
Ouais, par les spots électriques, ça coulait de l'eau depuis le toit. On se dépêche. Non, on est resté au premier et on a essayé de sauver ce qu'on pouvait sauver. Les habits, l'électroménager, un peu de bouffe pour les petits. On a fait ce qu'on pouvait, quoi.
Franck habite le lotissement qui est proche du ruisseau qui a débordé.
On ne sait plus comment, où, par quoi commencer. Quoi regarder et, face à cette catastrophe, je ne sais pas. Le courant a tout emporté. La voiture sur le mur, et dans le champ en face, il y a une dizaine de voitures. Tout ce que j'avais au jardin, tout était emporté. Faire quoi ou comment, on ne sait pas. On attend à voir si des gens de la mairie, quelqu'un qui vient nous guider. Quoi.
Édouard Philippe, le Premier ministre, est attendu cet après-midi dans l'Aude. La situation reste compliquée près de Carcassonne.
En Syrie, l'accord russo-turc pour Idlib, destiné à éviter un assaut meurtrier du régime Assad contre le dernier bastion insurgé, apparaît désormais plus fragile que jamais. Majoritaire dans cette province du nord-ouest du pays, les djihadistes qui devaient ce matin avoir évacué la zone ne sont pas tous partis. Hier déjà, la principale alliance djihadiste issue de l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda avait fait savoir qu'elle comptait poursuivre le combat contre le régime de Damas. Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Beyrouth. La situation sur place apparaît en réalité beaucoup plus compliquée tant les différents groupes djihadistes présents donc dans cette fameuse zone démilitarisée sont aujourd'hui traversés par de profondes divisions.
Oui, pour essayer d'être un peu simple, à Idlib, vous avez deux entités distinctes chez les insurgés. D'un côté, le Front National de Libération, des rebelles modérés, chapeautés par la Turquie. Ils ont accepté l'accord russo-turc, retiré leurs armes lourdes et leurs combattants. Et puis de l'autre, il y a la coalition djihadiste Hayat Tahrir al-Sham. Elle ne s'est prononcée que hier sur l'accord. Dans un communiqué ambigu, elle dit certes vouloir poursuivre le djihad contre le régime syrien, mais elle salue surtout les efforts de ceux qui luttent pour protéger les zones libérées, sous-entendu la Turquie. En fait, cette coalition djihadiste, elle est divisée. Il y a une direction plutôt pragmatique. Pour elle, ne pas respecter l'accord, c'est s'isoler, donner un prétexte à Damas pour balayer l'accord, s'exposer aussi à des frappes et puis prendre le risque aussi de s'aliéner la Turquie, de la voir se retourner contre elle. Ankara l'a dit le mois dernier, nous pouvons convaincre pour pacifier, mais il y a d'autres méthodes si nécessaire. Depuis des semaines, les services de renseignement turcs essayent donc de convaincre Hayat Tahrir al-Sham de respecter l'accord, de se débarrasser des éléments les plus radicaux pour se fondre dans la mouvance rebelle modérée et aller vers une solution politique. La direction de la coalition djihadiste l'a tacitement accepté avec ce communiqué ambigu hier. Elle a accepté aussi le retrait de nombre de ses combattants, mais il reste des groupes dissidents qui l'accusent de trahison, qui rejettent l'accord russo-turc, qui refusent de quitter la future zone tampon. Pour conclure, Moscou et Ankara, tuteurs des forces syriennes et des forces rebelles, semblent déterminés à mettre en œuvre cette zone tampon. La Russie calme d'un côté les ardeurs de Damas. Ce matin, le régime syrien a d'ailleurs dit qu'il lui fallait un peu de temps pour évaluer l'effectivité de l'accord. Et puis de l'autre côté, la Turquie règle la question des djihadistes dissidents, même si ça prend là encore un peu plus de temps.
Merci Aurélien Colli en direct de Beyrouth. Le point de passage de Nassib entre la Jordanie et la Syrie a lui été officiellement ouvert aux civils et aux commerces ce matin après 3 années de fermeture situé dans le sud de la Syrie, près de la ville de Deraa. Ce secteur avait été repris en juillet dernier par les forces pro-gouvernementales syriennes à la faveur d'une offensive appuyée par la Russie. À 3 jours d'un sommet européen spécial Brexit crucial, les pronostics semblent de plus en plus hasardeux. Samedi dernier, les rumeurs laissaient entendre qu'un accord avait enfin été trouvé. Et puis, 24 heures plus tard, hier, donc patatras, finalement, tout était à refaire. Aude Soufi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a beau répéter ce matin qu'un accord reste possible, même si cela prendra plus de temps qu'espéré. On voit mal comment chacun des deux camps pourrait parvenir à s'entendre.
Le ministre britannique, oui, parce que c'est toujours la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande qui pose problème et qui a mis un coup d'arrêt hier soir aux discussions, alors qu'effectivement on pensait que cette réunion surprise organisée un dimanche laissait espérer des progrès. Bruxelles insiste toujours pour que l'Irlande du Nord, et seulement l'Irlande du Nord, reste dans l'union douanière et le marché unique, et ce sans date limite. Mais pour Londres, cela remettrait en cause la situation du Royaume-Uni. Cela créerait une situation particulière pour l'Irlande du Nord et le parti unioniste, le DUP, qui garantit la majorité de Theresa May au Parlement, y est complètement opposé. La première ministre britannique, elle propose un autre arrangement provisoire sur la douane, mais les partisans d'un Brexit dur au sein de son parti, ici au Royaume-Uni, se disent que le temporaire va durer et qu'au final, le pays ne sortira pas vraiment de l'Union européenne, donc ils ne sont pas d'accord. Bruxelles refuse aussi cette solution qui n'en est pas une pour l'Union européenne. Et ce matin, c'est cette impasse qui fait une fois de plus la une de plusieurs journaux britanniques, avec une photo postée sur Twitter par Jeremy Hunt, lui-même le ministre des Affaires étrangères, dans un labyrinthe sous la pluie avec ses homologues européens. Une image qui représente bien les négociations sur le Brexit. Il affirme tout de même, vous le disiez, qu'un accord est possible et il répète qu'il est essentiel, mais on voit mal comment on pourrait y arriver en deux jours, surtout que les discussions ont été suspendue. Theresa May réunira les principaux membres de son gouvernement demain pour évoquer cette question du backstop, comme on l'appelle ici. Selon la presse, plusieurs ministres menacent de démissionner si elle ne revoit pas ses plans.
Merci Aude Soufi, en direct de Londres. Le gouvernement italien se réunit aujourd'hui pour adopter son projet de budget 2019 qui prévoit un net accroissement du déficit au risque de susciter les critiques de la Commission européenne. Et puis en France, l'Assemblée nationale démarre cet après-midi le marathon budgétaire, deuxième du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le gouvernement devrait notamment y mettre en exergue une baisse d'impôts de 6 milliards pour les ménages, un chiffre vivement contesté par les oppositions. Des chiffres à présent qui vont dans le sens des réformes voulues par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dévoile ce matin dans le quotidien 20 minutes les résultats provisoires des évaluations auxquelles ont participé en ce début d'année 1,5 million d'élèves. Il en ressort que près de la moitié des écoliers en classe de CE1 ont des difficultés en calcul mental et que 23% des élèves en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent. Des résultats qui interpellent toutefois les syndicats, à l'instar de Francette Popineau, co-secrétaire et porte-parole du SNUIPP-FSU. Elle répond à Hakim Kasmi.
En tout début de CP, les maîtres et les maîtresses se gardent bien de poser des étiquettes sur les enfants pour plusieurs raisons. D'abord, on le sait, ces tests n'ont pas de valeur scientifique. Hein, les enfants les ont passés, il y a des biais de méthode, hein, puisque les enseignants ont dû les adapter. Donc certains ont bougé les temps de passation, ont travaillé les consignes. Donc il y a une valeur scientifique tout à fait discutable de ces tests. Et puis, effectivement, en début de CP, on ne peut absolument pas dire qu'un enfant est en difficulté. Il peut être tout simplement un peu petit, il peut être anxieux vis-à-vis des tests. C'est tout ça qui peut expliquer à un moment donné une difficulté qui peut être le plus souvent passagère. Pour qu'un test ait de la valeur, il faut qu'on évalue ce que l'enfant a appris. Sinon, effectivement, on évalue autre chose. Hein. Et d'ailleurs, les remarques que fait le ministre sur les éléments qui pourraient provenir de la famille, on n'évalue pas les familles. Hein. Dans un test, on évalue ce que l'école a appris. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y avait tout un tas de terminologies que l'enfant pouvait ne pas connaître. Alors, on sait bien que dans un texte, il faut aussi dépasser les mots qu'on ne comprend pas. Hein. C'est ça aussi, comprendre un texte, mais il ne faut pas quand même qu'il y en ait trop.
La Francette Popineau, co-secrétaire et porte-parole du SNUIPP-FSU, elle répondait à Hakim Kasmi. Le ministre de l'Éducation nationale, toujours lui, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que la nouvelle composition du gouvernement attendue depuis la démission de Gérard Collomb devrait être connue d'ici 24 heures. Le député LREM Aurélien Taché, proche de l'exécutif, table lui sur une annonce avant la session de questions au gouvernement de demain. Invité aujourd'hui de ce journal pour évoquer notamment donc ce second souffle qui décidément se fait attendre, Stéphane Rosès, politologue, anciennement enseignant à Sciences Po et HEC et président donc de Cap Conseil Analyse et Perspective. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Une première question monsieur Rosès, histoire d'évacuer peut-être tout de suite cette question autour du remaniement qui ne vient pas. Cette longue attente est-elle seulement une péripétie ou bien plus largement le signe d'une crise gouvernementale voire politique ?
Oui, c'est sans doute l'effet d'une crise parce que au fond, L'affaire Benalla, les démissions gouvernementales, les interrogations au sein de la Macronie ne sont pas les causes, mais sont l'effet d'une perte de dynamique de ce qu'était le macronisme. Au fond, Emmanuel Macron, son lien avec le pays était indexé sur une seule chose. Je remets le pays en marche à partir de ce qu'il est pour, au fond, lui donner de nouvelles perspectives. Or, Angela Merkel à Aix-la-Chapelle lui a opposé une fin de non-recevoir. L'Europe ne bougerait pas. Et à partir de ce moment-là, le président Macron s'est seulement réconforté sur le fait que, n'ayant pas d'opposants, il pourrait prendre des libertés avec le contrat initial. Il n'avait pas de plan B. Et à partir de ce moment-là, tout se délite. Ses réflexes, même initiaux, par rapport à Benalla. Et tout d'un coup, très vite, les choses s'effilochent. Alors on va voir si ce remaniement est l'occasion pour Emmanuel Macron de renouer avec le pays au travers d'une grande explication sur là où il amène le pays, car lors de sa dernière émission télévisée, il avait esquivé la question de Jean-Jacques Bourdin « Où emmenez-vous les Français ?» Et au fond, c'est ça le sujet de fond qui explique les délitements dont nous sommes les commentateurs quotidiens et en attente d'un remaniement qui décidément est très long.
Une question d'Anne Faucomel.
Alors justement, puisque vous parlez du cap, hein, du chef de l'État, c'est l'examen du projet de loi de finances pour 2019 qui commence aujourd'hui pour les députés. L'exécutif martèle qu'il veut une baisse de 6 milliards d'impôts pour les ménages. Il y a eu aussi des annonces un peu plus sociales à la rentrée, le plan pauvreté notamment. Comment vous jugez la communication du chef de l'État, du gouvernement, sur cette question du pouvoir d'achat? Est-ce que cela peut permettre à Emmanuel Macron de reprendre la main?
Non, certainement pas. Il y a d'une part, quand on interroge chez les Français leurs problèmes, et l'ancien sondeur que je suis connaît tout ça, le chômage, le pouvoir d'achat, mais ça, ce n'est qu'une photographie apparente du sujet. Ce n'est pas le sujet du pays. Le sujet du pays, sinon on ne comprendrait pas qu'alors même que des réformes étaient jugées injustes, le pays ait consenti à ces réformes. Le sujet du pays est... Est-ce que les réformes qui sont menées, est-ce que les efforts qu'on est prêt même à faire ont pour vocation à renforcer notre modèle ou à, comme le dénonçait Emmanuel Macron à Bucarest, ne sont que l'expression de justification et de pression extérieure qui déliterait peu à peu notre modèle social. C'est la seule question. Alors, le pouvoir d'achat, le chômage, ça date depuis maintenant une trentaine d'années. Donc, je voudrais insister sur les raisons fondamentales, culturelles, politiques, avant même qu'économiques, de la dépression française dans laquelle le pays retourne, alors même qu'Emmanuel Macron semblait être une promesse de sortie de l'idée que nous avions à choisir entre la survie de notre modèle et, au fond, notre identité, ce que nous sommes et le rapport au monde extérieur.
En même temps, on n'a pas l'impression qu'Emmanuel Macron ne rappelle pas toutes ces valeurs de démocratie, l'État-providence. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron en termes de cap ?
C'est-à-dire, ce qu'il y a de très troublant chez Emmanuel Macron, contrairement à ses prédécesseurs, c'est qu'on sent bien au travers de ses discours qu'il sent les raisons intimes de notre malaise et de notre malheur, mais qu'il y a un hiatus entre ce qu'il dit et ce que semble faire le gouvernement. Par exemple, vous avez parlé du budget. La façon dont est présenté le budget est absolument équivalente à ce qui se passait avec François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est est-ce qu'on va aider telle ou telle catégorie ? Est-ce qu'on va faire plus pour le pouvoir d'achat ou plus pour l'investissement des entreprises ? Mais ça, c'est l'ancienne façon de faire. C'est pas le sujet essentiel du pays. Le sujet essentiel du pays, encore une fois, c'est est-ce qu'on peut se remettre en marche à partir de ce que l'on est ou est-ce que les réformes menées sont des réformes qui sont faites sous contrainte d'un extérieur dans lequel momentanément on ne se reconnaît pas, d'où l'articulation évidemment intime entre notre malaise national et le sujet que vous avez abordé, qui est la crise européenne au travers des élections bavaroises, la montée partout du nationalisme parce que les peuples se sentent privés de leur destin.
Une dernière question rapidement.
Oui, alors nous sommes à 7 mois des élections européennes. Je rebondis puisque vous parliez à l'instant de la Bavière. Au-delà de la la nouveauté de la circonscription nationale unique. Comment expliquez-vous qu'aucune tête de liste n'ait été désignée dans les grandes formations politiques, La République en Marche, les LR ou les Insoumis et même le Rassemblement national?
Mais parce que je pense que d'abord, on est sans doute un tout petit peu loin. Et puis, d'autre part, la plupart des formations politiques sur la question européenne, eux-mêmes, ne sont pas exactement clairs. Le Front National aussi, entre une candidature gaullienne et nationaliste. La République en marche, au fond, puisque Emmanuel Macron n'a pas sorti de plan B après le refus d'Angela Merkel de faire bouger les lignes en Europe, lui aussi s'interroge sur sa tête de liste. C'était les contenus. Le Parti socialiste est dans ses atermoiements habituels et Jean-Luc Mélenchon hésite entre une ligne, je dirais, protestataire et une ligne d'alternance ou de construction d'alternance. Donc, les questions européennes posent des questions de fond qui articulent la question nationale, la question sociale et un débouché possible à la grave crise que connaît l'Europe.
Et on terminera là-dessus. Merci Stéphane Rosès, politologue, président de Cap Conseil Analyse et Perspective, d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Anne Fauquemberg. Et puis avant de vous évoquer un mot du temps pour aujourd'hui, je précise que selon un nouveau bilan provisoire, 9 personnes sont mortes dans l'Aude en raison des inondations. Par ailleurs, la vigilance rouge crue qui concernait depuis ce matin la vallée centrale de l'Aude a été étendue à 3 tronçons supplémentaires, les basses plaines de l'Aude, Orbieux et cesse. Le temps pour aujourd'hui agité, pluvieux donc au sud, globalement nuageux et avec parfois quelques belles éclaircies tout de même au nord. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 16 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François-Charles Domergue.